bon pasteur Ever. L'automne est définitivement tombé sur la banlieue de Bruxelles. La capitale du royaume, sous les auspices de la nuit, semble avoir retrouvé un calme apparent. Denis, lui, ne dort pas. Depuis plusieurs mois, il subit des insomnies terribles qui l'empêchent de fonctionner correctement. Moins efficace dans son boulot de manutentionnaire, il est dans le viseur de son boss. Le jeune homme n'est pas plus verni d'un point de vue personnel. Il vit seul dans son petit appartement qu'il loue à un ami. Denis déprime. Ils sont nombreux dans tout le pays à partager ce sentiment. C'est pour une bonne raison. Les jours sombres, depuis déjà trop longtemps, s'abattent sur les Belges avec une force sans cesse renouvelée. Tous n'ont pas des troubles du sommeil ou des difficultés professionnelles, non. Dont la sinistrose est plus collective, plus profonde. Il semble déjà loin l'âge d'or des Trente Glorieuses, Denis, et de cette génération qui rentre sur le marché du travail un poil trop tard et qui hérite d'une société à feu et à sang. Mais c'est pas tout. La déprime se teinte d'une vive inquiétude sécuritaire. Hélas, c'est pas ce soir que les choses vont aller en s'améliorant. Nous sommes le 2 octobre 1984. Il est près de 3h20 du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Du fond de son lit, Denis observe les lueurs blafardes des lampadaires publics qui s'infiltrent dans sa chambre. Chaque soir, c'est le même cinéma, la même musique. Le jeune homme pense à ce futur qui semble s'écrire en pointillés, aux affres que le pays vit depuis plusieurs années. Économiquement, c'est la catastrophe depuis la fin des années 70. Les chocs pétroliers ont renversé la table et les pays industrialisés, dans leur majorité, mangent du pain noir. Le taux d'emploi ne cesse de chuter. Les perspectives s'assombrissent et le déficit budgétaire, qui ne cesse de grimper, ne permet pas une politique économique optimiste et positive. Et puis, il y a ce qui se passe au niveau sécuritaire. Rien qu'à y penser, Denis se raidit dans ses draps, comme si le croque-mitaine de son enfance allait apparaître, là, devant lui. En 1979, le Bruxellois se trouvait à quelques encablures de la Grand Place lorsque l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, avait mis le feu aux poudres. Un attentat. Et 18 blessés plus tard, le royaume s'était réveillé en plein cauchemar. Et puis en 1981, nouveau traumatisme. Lorsqu'une voiture piégée avait sauté à Anvers, faisant 3 morts devant une synagogue. Si seulement c'était tout. Le pire est venu ensuite. Avec la bande des tueurs du Brabant. Des attaques à l'appel depuis 1982 et des victimes toujours plus nombreuses. Oh, c'est bien simple. Denis est devenu parano. La moindre voiture qui fait crisser ses pneus, le moindre truc inhabituel, et il s'imagine que des types cagoulés vont se jeter sur lui pour l'enlever. Ou pire. Et les forces de l'ordre dans tout ça, plus personne ne leur fait confiance. Elles sont incapables d'attraper les malfrats et les truands qui sévissent sur le sol national. Ben ça, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Denis n'en doute pas un instant. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être suffisant. Bref, dans la rue du Bon Pasteur, comme partout ailleurs, l'instabilité structurelle gagne les cœurs et les âmes. Le jeune homme regarde son réveil qui semble le narguer dans l'obscurité. 3h24. L'heure où tout bascule. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Denis est soudain projeté hors de son lit. Une explosion énorme vient de souffler les vitres de son appartement. Très vite, c'est le branle-bas de combat. Partout autour de lui, des cris résonnent. Ceux des enfants terrorisés par le choc. Ceux des parents qui ne comprennent pas ce qu'il vient de se passer. Le jeune homme ne se pose pas de questions. Il court aussi vite qu'il peut. Son but, sortir du bâtiment. Denis est persuadé que tout va s'effondrer. Il descend les escaliers 4 à 4 et se retrouve bientôt au milieu d'une partie du voisinage à gare. C'est au numéro 59 qu'une bombe semble avoir explosé. C'est là que les bureaux et le siège de la firme américaine Litton se trouvent. Spécialisée dans l'électronique en tout genre, l'entreprise est connue à Evere pour être sans histoire et particulièrement discrète. Alors pourquoi ? C'est bien l'interrogation des habitants du quartier et celle des forces de l'ordre qui, dépêchées sur les lieux, ne peuvent que constater les dégâts. Devant les locaux touchés, un trou de près d'un mètre carré est encore fumant. Une charge explosive, ça ne fait aucun doute. Fort heureusement, et c'est bien là le principal, aucune victime n'est à déplorer. Les médias vont aussitôt s'emparer de l'affaire. Lors du JT du 2 octobre, la population apprend la terrible soirée vécue par les habitants de la rue du Bon Pasteur.
Bonsoir. Attentat cette nuit à Evere, dans la banlieue nord-est de Bruxelles. 3h24 du matin, une explosion très violente. Toutes les vitres des environs volent en éclats. Une vingtaine de voitures sont endommagées. Heureusement, pas de victimes. L'attentat visait les bureaux d'une société américaine d'électronique qui travaille dans le domaine militaire. Il était revendiqué par une organisation jusqu'ici inconnue, les élus communistes combattants.
Les CCC, voilà l'acronyme qui semble se cacher derrière l'attaque à la bombe. Dans toutes les strates de la société, la réaction est unanime. C'est quoi cette blague ? Est-ce que c'est sérieux cette revendication ? Un sigle, une étoile rouge, trois lettres et surtout un communiqué qui jette un pavé dans la mare. Aujourd'hui 2 octobre 1984, nous avons attaqué à la bombe les bureaux et ateliers de la société Litton Business Belgium SA au 59 de la rue du Bon Pasteur à Evere. Nous avons voulu, par notre attaque, léser directement les intérêts de ce trust en paralysant ses activités. Nous espérons pour longtemps dans ce pays. Mais il ne faut pas limiter le choix et la portée de notre action au seul coup porté contre une bande de capitalistes dont le commerce de mort lui a rapporté pour le premier trimestre de cette année un bénéfice de 76,5 millions de dollars américains. Nous, communistes, savons que la paix n'apparaîtra que lorsque le capitalisme, fauteur de guerre, disparaîtra. Donc, qu'il ne s'agit pas d'éviter la guerre, mais de réaliser la révolution sociale en suivant plus que jamais le mot d'ordre de Lénine contre la guerre impérialiste, la guerre civile. Organisons-nous et frappons sans relâche. En avant vers la construction de l'organisation combattante des prolétaires, en avant vers la révolution communiste. Tout le pouvoir aux travailleurs. La nuit du 2 octobre 1984 n'est pour les terroristes qu'une première étape. La Belgique, déjà gangrénée par la peur, va basculer dans l'horreur. L'enfer va se déverser durant plus d'un an. 3 octobre 1984, 24 heures à peine, qu'une bombe a explosé à Evere. Depuis la publication du communiqué de l'organisation revendiquant l'attaque, les réactions s'enchaînent. Certains croient une blague, d'autres basculent dans la panique. Les forces de l'ordre et les pouvoirs publics tentent de récolter des indices et de retrouver des témoins. Ils ne vont pas avoir le temps de résoudre cette première affaire, qu'une deuxième leur tombe sur les bras. Plateau de la RTBF, 19h. Georges Moucheron, déjà sur le pied de guerre, se retrouve à devoir parler une nouvelle fois de ces fameux assaillants communistes dont personne ne connaissait l'existence il y a encore 48 heures. Ils viennent de revendiquer une nouvelle action.
Bonsoir. Nouvel attentat cette nuit dans la région de Bruxelles. Cette fois, c'est un constructeur de camions qui a été visé, la firme Mann, à Dilbeek. Comme hier à Evere, l'attentat a été revendiqué par les cellules communistes combattantes, un groupe inconnu jusqu'ici.
À première vue, c'est une bombe artisanale parce qu'elle n'a pas fait les dégâts escomptés. Ou bien on peut également penser que ce sont des professionnels qui ont justement voulu effrayer au lieu de faire des dégâts.
Une nouvelle fois, les assaillants s'attaquent à une entreprise reconnue dans le monde entier pour sa réussite. Mann est une firme allemande qui produit des engins de chantier et de logistique. Les bandits se sont infiltrés dans le dépôt de stockage des véhicules de Mann Belgium en découpant un grillage. La suite, 4 bombes déposées sur le site, qui n'explosent pas, limitant les dégâts à un incendie sans trop d'envergure. la situation aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Après les Américains, les Allemands. Mais quel point commun peut bien lier les deux entreprises attaquées par les mystérieuses CCC? Eh bien, il y en a deux. Les firmes sont des symboles du capitalisme et ce sont des fournisseurs de matériel militaire. Voilà de bien maigres indices pour les forces de l'ordre. Et tout de même, des organisations terroristes d'extrême gauche, c'est pas nouveau en Europe. Bien des pays sont en proie à ce genre d'attaques qui cherchent à déstabiliser et terroriser l'opinion et les gouvernements. En France, Action Directe est le plus célèbre de ces mouvements. En Italie, on ne cesse pas de parler des Brigades Rouges. En Allemagne, c'est la fraction Armée Rouge qui fait la loi. Et si les CCC émanaient de l'une de ces organisations, ou de plusieurs? Le regard des enquêteurs se tourne vers les terroristes français d'Action Directe. Il faut agir vite. La Belgique risque de devenir la victime d'un cercle terrifiant. Celui propagé dans toute l'Europe par ce qu'on appelle les années de plomb. Évoquer 1985 comme l'année de plomb belge n'a rien d'exagéré. Outre la montée en puissance des CCC, le royaume traverse de très nombreuses crises, qu'elles soient économiques ou politiques. Les tueries du Brabant ne sont pas terminées. Et pour couronner le tout, le drame du Hesel plonge un peu plus les Belges dans la torpeur. Aux causes d'inquiétude nationale s'ajoutent les préoccupations internationales. D'aucuns pensent que la guerre est proche, alors que le déploiement de missiles américains sur le vieux continent paraît pour le moins inquiétant. En réaction, les mobilisations populaires sont immenses et témoignent du malaise ambiant. L'organisation à l'étoile, elle, continue de faire parler d'elle au milieu de ce marasme ambiant. Les CCC profiteraient-elles du désordre pour semer le trouble davantage? C'est évident. Ce type d'organisation terroriste n'a qu'un seul but. Poser les jalons d'une future révolution. Oh, l'opinion ne s'y trompe pas. Ce sont des symboles qui sont visés. Après Litton et Mann, la firme Honeywell est visée le 8 octobre. Trois attaques à la bombe en moins d'une semaine, chaque fois, contre des sous-traitants de l'OTAN. L'évidence s'impose. Les CCC cherchent à déstabiliser les intérêts américains et plus encore, ce qui touche au capitalisme guerrier de l'oncle Sam. Les habitants du quartier racontent leur nuit mouvementée au micro des journalistes.
Vous avez entendu, oui, l'explosion cette nuit?
J'ai eu l'impression d'être soulevée dans le lit et on a entendu un choc terrible. Mon mari et moi, on a pensé que c'était bon par l'OTAN. On a cru ça aussi, puisqu'on a l'OTAN si près. Enfin, on avait vraiment peur. Alors, on s'est levé. On avait déjà des gens qui se précipitaient de haut.
On commence à se poser des questions, tout de même. Parce que le ministre dit la semaine, l'avion n'a pas s'affolé. Vous voyez bien qu'on n'a pas profité.
Qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait faire?
Qu'est-ce que vous voulez, nous? Si dans les hauts lieux, ils ne savent pas.
Les enquêteurs font face à des militants déterminés, ancrés à l'extrême gauche du paysage politique et prêts à tout pour mener à bien leur projet de renversement de la société telle qu'elle existe. Malgré l'urgence, les malfrats vont plus vite que les autorités. Le mois d'octobre 1984 permet aux CCC de ridiculiser les forces de l'ordre aux yeux de la population. Interviewé à ce sujet, le bourgmestre d'Evers semble dubitatif.
Est-ce qu'on peut dire que la coopération entre les différentes polices est efficace?
Je comptais justement m'entretenir avec mon commissaire ce matin sur cette coordination. Ce matin, il y avait ici 5 polices différentes. Maintenant, là, s'y est ajoutée l'armée, bien sûr, le service de déminage. Apparemment, la coordination n'existe pas. Les témoins sont interrogés parfois 2 ou 3 fois par des polices différentes.
Si les 3 premières attaques s'étalent sur une petite semaine, ce n'est qu'un début. Le 15 du même mois, c'est la Fondation internationale Jean Rey, centre Paul Immans, qui est victime de l'organisation AXL. Il s'agit d'un centre d'études sur les partis libéraux. Moins de 48 heures plus tard, rebelote. Cette fois à Gand, contre le secrétariat du CVP. La mouvance terroriste a franchi un cap, celui de s'attaquer aux partis politiques. Au CVP de Gand, l'émotion est palpable.
Ça commence à devenir vraiment terrible, moi ça me choque, je suis vraiment excessivement ému de ça.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut viser maintenant la tête de l'État? C'est pas par hasard que ça se passe ici.
Je pense que c'est pas seulement la question de la tête de l'État, je pense que c'est... On veut casser ou diminuer la démocratie, monsieur, ça c'est mon idée.
Les autorités ne peuvent décidément pas rester sans réagir. Alors que la crédibilité de la police et de la gendarmerie est déjà en berne, depuis l'affaire des tueurs du Brabant, une opération spéciale est montée pour arrêter les ombres communistes qui semblent insaisissables. Mammouth. Voilà son nom de code. 15 jours après les premières explosions bruxelloises, la justice envoie les forces de l'ordre perquisitionner tout ce qui bouge. Plus de 120 lieux passés au crible. 15 personnes embarquées pour être interrogées. Le ministre de la Justice, Jean Gol, s'exprime au sujet des perquisitions menées dans tout le pays.
Il semble, selon les indications fournies par les parquets, que la piste de milieux apparentés au groupe de type action directe est la piste qui est actuellement suivie par les enquêteurs. La découverte d'un certain nombre de documents lors des premières perquisitions ont permis d'autres perquisitions. Mais les perquisitions de ce matin ont été organisées sur base de renseignements que les divers corps de police ont permis depuis le début de l'enquête, aussi sous l'autorité du parquet et du juge d'instruction.
Du côté des associations, on trouve que l'opération Mammouth n'est qu'un coup de bluff.
Pour nous, c'est clair que Gaul a profité du fait qu'il y avait un terrain possible pour que la répression s'exprime sans entrechoquer l'opinion publique, pour faire un coup de balai général dans toutes les organisations de gauche, humanitaires, socialistes, chrétiennes, tiers-mondistes, frères des hommes ou d'autres trucs de ce style-là. Ils en ont profité, sachant pertinemment bien qu'on n'a rien à voir avec le terrorisme, pour reprendre les fichiers, pour prendre des tas d'informations qu'ils n'avaient pas, qu'ils aimeraient bien voir, mais qu'ils ne voyaient pas comment faire pour obtenir.
De l'opération Mammouth, police et gendarmerie ne retirent rien. Ce qui devait permettre aux autorités de sortir par le haut de toute cette affaire est un fiasco total. Une véritable humiliation. Aucun des suspects interrogés n'est mis en garde à vue. Personne ne sait rien. Personne n'a rien vu. Les documents saisis par Fardentière sont épluchés. Là encore, aucun résultat. La débauche de moyens mise en branle pour contrer les CCC n'aura permis qu'une chose. Démontrer que l'État paraît totalement impuissant face à l'organisation. Pourtant, en interrogeant autant de militants des mouvances d'extrême gauche en Belgique, les enquêteurs sont persuadés d'avoir échangé avec certains profils en lien direct ou indirect avec les CCC. Et ils ne se trompent pas. Mais ils ne peuvent pas le prouver. Les langues vont commencer à se délier. Et la disparition soudaine d'un homme attire l'attention. Ce gars est imprimeur. C'est un carolo qui s'appelle Pierre Carrette. Dans sa jeunesse militante, il s'est lié avec certains membres de la fraction Armée Rouge. Et plus encore, avec les chefs de file d'Action Directe, comme Nathalie Ménigon, qu'il va rencontrer. Dès la fin des années 70, Pierre Carrette s'est fait connaître au travers de plusieurs actions. L'imprimeur est vite devenu un leader au cœur de l'extrême-gauche belge. Il était une cible de l'opération Mammouth, mais il s'est volatilisé peu de temps avant les premières revendications des CCC. Un peu trop gros pour n'être qu'une simple coïncidence, très certainement. Du jour au lendemain, Carrette devient donc l'ennemi public numéro un. Les autorités ne vont avoir qu'un seul objectif, le rattraper et le neutraliser. Ce qui, vous pouvez me croire, ne va pas être une mince affaire. Décembre 1984. Au bout de la nuit noire, un commando s'avance De faibles lumières artificielles illuminent un panneau qui nous permet de comprendre où il se trouve. Centrale European Pipeline System. Le réseau d'oléoducs en centre-Europe de l'OTAN. 5314 km de tuyaux passant par la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Un gros morceau. Un énorme symbole que les CCC vont chercher à altérer en se glissant dans les ombres. Et comme si cela n'était pas suffisant, les terroristes vont frapper à plusieurs endroits du réseau belge. Deux figures semblent mener à bien les opérations. D'un côté, l'imprimeur, Pierre Carette, ennemi public numéro un. Il est accompagné de son plus fidèle lieutenant, Bertrand Sassois, de 10 ans son cadet. Tous deux sont passés à la clandestinité, enchaînant les fausses identités et les planques, tels des spectres insaisissables. Carette est un militant d'ultra-gauche depuis des années déjà. Et cette nuit, avant que le jour ne se lève, il compte bien frapper un grand coup. Leurs précédentes attaques symboliques concernaient avant tout des sous-traitants de l'OTAN. Ici, avec les pipelines, les CCC visent du lourd. Ils ont fabriqué des bombes en conséquence. Un engin est prévu pour chaque lieu visité. Il n'y a qu'une station de pompage, près de Bassenge, en province de Liège, qui a nécessité une logistique plus importante. Bientôt, les 6 engins explosifs sont placés au lieu visé par l'attaque. Carette se méfie. Il ne faut pas que le semi-échec du parking man se répète.